Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen.
Chers amis, on va passer une émission exceptionnelle ce soir. On va parler d'Europe sans plus tarder. Je vous propose qu'on accueille notre premier invité de la semaine. Il s'agit de MEP Assistant, a.k.a. Quentin. Salut Quentin.
Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation.
Très content de t'accueillir sur le plateau de Backseat. Cher Quentin, je disais, tu es MEP assistant. Alors MEP, M-E-P, ça veut dire MEP, ça veut dire...
Member of the European Parliament, donc membre du Parlement européen.
Membre du Parlement européen, en gros, c'est comme ça qu'on appelle les députés.
C'est ça.
Et toi, tu t'appelles MEP assistant parce que tu as été assistant parlementaire au Parlement européen.
Tout à fait, donc il y a 11 ans maintenant, je suis rentré au Parlement européen, j'ai créé MEP assistant pour plein d'autres choses, plein de raisons, mais du coup, j'ai été assistant parlementaire pendant 6 ans et demi, donc entre 2013 et 2019. Et après, je suis parti du Parlement, je suis devenu lobbyiste, etc. Mais voilà, j'ai fait 6 ans et demi au Parlement.
Tu l'as dit, tu es lobbyiste aujourd'hui, tu n'as pas complètement quitté la sphère européenne puisque tu bosses pour la Fédération des éditeurs européens. C'est quoi ce lobby-là?
C'est un lobby qui représente, c'est une association d'associations qui représente les intérêts des éditeurs au niveau européen. En gros, les maisons d'édition au niveau européen, partout en Europe, elles ont des intérêts. Et donc, nous, on est là pour traduire, entre guillemets, leurs besoins auprès des décideurs politiques pour influencer, par exemple, telle ou telle législation ou leur dire, voilà, tel sujet est important pour nous.
Bon, et si on t'a invité, c'est aussi parce que tu parles d'Europe. C'est surtout ça. Tu parles d'Europe sur Internet. On te retrouve sur Twitter, mais aussi sur Twitch.
Tout à fait.
Où tu décryptes l'actualité européenne. Ici, on est au Parlement européen à Strasbourg. C'est un lieu que tu connais bien.
J'y suis passé. Comme tu disais, le nombre de fois où les gens sont allés au Parlement de Strasbourg, j'ai fait le calcul. J'ai dû passer 75 fois à Strasbourg. Wow. Tous les mois pendant 6 ans et demi. Donc oui, j'ai passé du temps et je vous rassure, même moi, je me paume dans certaines parties du Parlement. Okay. Le Parlement est fait pour se paumer dedans, particulièrement à Strasbourg. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous, c'est le bâtiment.
Donc je le disais, on te retrouve sur Twitch où tu parles du Parlement européen. Tiens, on reconnaît Isabelle Coustet, qu'on a vu à l'instant, qui est la chef du bureau en France du Parlement européen. Tu interviews du coup des personnes. C'est qui le public à qui tu essaies de parler? Tu veux faire quoi?
Je parle à des jeunes surtout. En gros, j'ai deux types d'audiences différentes. Sur Twitter, j'ai une audience qui va être plus professionnelle européenne, les gens de la Bureau européenne, députés, journalistes, activistes, etc. Et sur Twitch, j'ai une audience qui est plutôt jeune, des étudiants, des jeunes professionnels, etc. Mais des gens qui sont intéressés par la politique, potentiellement par l'Europe, en tout cas j'essaie de les intéresser à l'Europe, mais qui n'ont rien à voir avec la bulle. Moi je stream en français et en anglais, j'ai des gens qui viennent de partout d'Europe. Dans mon audience régulière, j'ai des Suédois, j'ai des Espagnols, j'ai des Hongrois, des Français, des Belges, etc. Et donc j'essaie de faire en sorte que ces jeunes comprennent un peu ce qui se passe à Bruxelles, comment ça marche, qu'est-ce qui s'y passe, quelle est l'actualité politique, pourquoi c'est un sujet important, pourquoi c'est un sujet dont on doit parler, pas juste une fois tous les 5 ans, mais j'ai envie de dire tous les jours.
D'accord. Les amis, si vous avez des questions à poser à Quentin, surtout n'hésitez pas. Lorraine?
Bah déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience d'assistant? Pourquoi tu n'es plus assistant maintenant, du coup?
Alors, je ne suis pas parti parce que je n'avais pas aimé mon expérience d'assistant. J'ai adoré mon expérience d'assistant et je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant, particulièrement enrichissant. J'ai acquis une expertise, j'ai acquis d'expérience, des contacts, etc. Donc, je ne suis pas parti parce que je ne voulais pas. J'aimais plus ce que je faisais. Je suis parti parce que voilà, ça faisait 6 ans et demi. J'ai dit, bon voilà, c'est la fin de mandat. C'était le moment de faire quelque chose d'autre, quitte à revenir plus tard dans ma vie au Parlement européen. Mais voilà, c'était... Mm-hmm. Ça paraissait une transition naturelle, mais sinon, voilà, ma vie d'assistant parlementaire, j'ai beaucoup aimé parce que on apprend beaucoup de choses. Si vous comparez le boulot d'assistant parlementaire au niveau européen et à l'Assemblée nationale, c'est pas du tout les mêmes boulots.
Ah bon?
Ouais, parce que en fait, au Parlement européen, c'est un travail qui est plus technique. Vous avez beaucoup plus d'influence, vous avez vraiment les mains dans le cambouis et vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu un assistant parlementaire au niveau européen. On ne lui demande pas, tiens, tu peux aller me faire un café au passage. C'était plutôt, tu baisses la tête, tu baisses les yeux, tu dis oui, monsieur, merci, monsieur.
Il y a des collaborateurs parlementaires en France qui sont...
Il y en a, mais c'est moins la norme. C'est moins la norme, c'est moins la culture, on va dire, qu'au Parlement européen. Au Parlement européen, il y a effectivement, enfin, je veux dire, là, je fais un peu une généralisation, hein, mais le profil, c'est vraiment des gens qui vont devenir des experts, qui font du fond, qui font du juridique, etc. etc. Vous n'allez pas avoir, par exemple, qu'on peut trouver à l'Assemblée nationale beaucoup de gens qui sont à temps partiel, etc. Les assistants sont à plein temps. Et après, je ne jette pas la pierre sur l'Assemblée nationale, parce qu'il faut dire aussi que les députés européens ont des moyens beaucoup plus importants pour se constituer des équipes.
Hein. C'est de le dire.
Un député européen, il va avoir 25 000 euros par mois pour gérer son équipe.
Ah ouais.
Donc, il peut se faire des équipes plutôt solides, des gens qui vont bien payer.
En français, c'est 10-12 000.
Ouais, 10-12 000, ouais.
Ouais, c'est ça. Et encore.
Et encore.
Ouais, et encore, quand t'es dans la bonne commission.
Et donc, avec 25 000, tu peux construire des équipes compétentes et bien rémunérées.
Mais du coup, généralement, les assistants et les assistantes, c'est plutôt des profils experts et moins militants par rapport à l'Assemblée nationale?
Ça dépend. Ça va dépendre des partis. On va dire que si tu es dans les partis centristes, je vais schématiser, on va dire de LR jusqu'au socialiste, on va avoir des profils plus techniques. Moi, par exemple, j'ai bossé pour 3 députés différents, PPE, donc UDI, LR. J'ai jamais été militant de ma vie. J'ai jamais été encarté ou que ce soit. J'ai été recruté parce que voilà, je suis juriste.
Ouais, pur technicien du droit européen.
J'ai appris pas mal de choses sur le terrain et je me suis constitué une expertise. Et après, cette expertise m'a permis de continuer. Après, si vous allez dans les partis verts, LFI ou l'extrême droite, là, par contre, ils vont prendre des profils plus militants ou plus marqués idéologiquement.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils bossent moins bien.
C'est
une question de profil différent. Mais au bout du bout, ce que ça produit un assistant parlementaire, c'est quoi ? C'est des propositions de résolution, c'est de la négociation.
Ça va être de la négociation, ça va être des propositions d'amendement. Enfin, je peux commencer ma journée à répondre au téléphone pour faire l'agenda du député et après finir une nuit complète en négociation, en trilogue, donc entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil pour décider d'une législation. Donc on fait vraiment tout et on a vraiment l'influence qu'on va faire. On va vraiment construire la loi, co-construire la loi avec les députés, avec les lobbies, etc., etc. Donc on a vraiment une vraie influence, on peut vraiment changer les choses et à la fin. Comme je disais, un assistant est vraiment reconnu pour son travail. Les députés, alors j'avoue, je ne regarde pas assez souvent l'Assemblée nationale pour le dire, les députés européens, c'est très régulièrement, quand ils finissent leur dossier, ils vont prendre une minute dans l'hémicycle pour dire bah, « voilà, je remercie mes assistants parce qu'ils m'ont aidé à faire ceci, faire cela mm-hmm. ». Il y a une vraie reconnaissance professionnelle et d'expertise.
Safia ?
Ouais, j'avais une question parce que justement, vous avez parlé en fait, de cet espace de co-création de la législation. Donc si je ne dis pas de bêtises, les assistants, les députés et les lobbies. Aujourd'hui, mm-hmm. vous avez une place qui est plutôt particulière. C'est celle de représenter, on va dire, un lobby des maisons et des éditions mm-hmm. européennes. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que cette position vous va et c'est quoi vos gros chantiers là, à l'échelle européenne ?
Alors c'est un rôle très différent, hein, évidemment. C'est parfois un peu frustrant aussi parce que du coup, comme moi j'étais des deux côtés de la table, j'étais lobbyiste et je suis celui qui fait du lobbying maintenant. Il y a des moments, c'est un peu frustrant parce qu'on lutte pendant des semaines pour obtenir quelque chose dont je sais que ça me prendrait 30 secondes de le faire en tant qu'assistant. Donc c'est normal, hein, c'est le jeu. Mais après, c'est un rôle qui me convient bien, qui est intéressant. Hein, c'est aussi quelque chose de concret hein, parce que quand on est dans la bulle européenne, dans les institutions. Voilà, on fait des choses, mais on n'a pas forcément le contact direct avec le terrain. On ne sait pas forcément quels sont les impacts concrets. Alors que moi, au quotidien, ben voilà, je vais avoir des rendez-vous avec des calls avec mes membres. Ils vont dire, ben voilà, moi, sur le terrain, c'est comme ça que ça se passe. J'ai tel problème avec Amazon, j'ai tel problème avec Google. Ce matin, j'étais à la Commission européenne pour parler d'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on protège les œuvres sous droit d'auteur des IA, etc. etc. Donc, on parle vraiment de choses très concrètes. Donc, c'est un rôle qui est différent. Et en termes de sujets, enfin... Voilà, les sujets sur lesquels je bosse beaucoup, je suis devenu un spécialiste au fil des années, grâce au Parlement européen, sur les questions numériques, droit d'auteur, intelligence artificielle. En gros, c'est mes domaines de spécialité, et donc je vais travailler au quotidien sur l'intelligence artificielle, la protection du droit d'auteur, je travaille aussi sur les sujets environnementaux, et parfois sur des sujets un petit peu plus random. Toi, par exemple, on travaille sur la question de la régulation des jouets, parce qu'il se trouve que les livres pour enfants sont considérés comme des jouets. Donc on doit regarder la législation, dire bon là, est-ce que ça impacte les éditeurs, est-ce qu'il y a des choses, des effets de bord qui n'ont pas été anticipés. Et donc du coup c'est notre rôle aussi parfois d'aller dire au législateur, dire attention, ça vous avez pas anticipé cet aspect-là, prenez-le en compte. Et après ils nous écoutent pas. Mais...
C'est quoi l'ambiance entre les personnes qui travaillent au Parlement européen ? Est-ce que vous traînez entre personnes de la même nationalité, parce qu'elles parlent la même langue, ou est-ce que c'est les mêmes partis politiques ? Comment ça s'organise ? C'est le bordel ? C'est peut-être aussi tout ça.
C'est le bordel, mais c'est un beau bordel.
Il y a un côté tour de Babel.
C'est un côté tour de Babel. Tu vas parler évidemment beaucoup avec les gens de ta nationalité, de ta délégation nationale, etc. Mais après, c'est vraiment international. Genre, moi, mes meilleurs potes, quand j'étais au Parlement, c'était des Britanniques, des Polonais, des Slovènes. Vraiment des gens de partout avec des expériences très différentes. Et c'est ce qui rend...
Mais vous étiez potes parce que vous bossiez sur le même sujet ? Ou parce que vous étiez des assistants de collègues ?
Ça pouvait être les deux, genre ça peut être on est collègues de commission, on bosse tout le temps ensemble, ça peut être on est de la même nationalité, on s'est rencontrés dans une soirée, parce qu'on parle souvent de bulle européenne, c'est un monde dans un monde à Bruxelles, et les gens, on rencontre en permanence, tu vas en soirée, tu vas rencontrer des assistants parlementaires d'un autre groupe politique, tu vas rencontrer un lobbyiste, etc. Donc en fait, tu vas en permanence rencontrer des gens différents, avec des expériences différentes, et c'est quelque chose qui est génial. Moi, je trouve que ça a vraiment l'impression de faire un Erasmus professionnel, en fait, vraiment, quand tu bosses dans la bulle européenne.
Je le disais tout à l'heure, session parlementaire qui s'achève aujourd'hui au Parlement européen, très intense, très particulière. Tu peux essayer de nous expliquer ce que ça représente une session plénière du Parlement européen ? C'est plusieurs jours où il y a plusieurs milliers de personnes qui débarquent pour négocier une dernière fois des textes ?
Alors, il faut s'imaginer le plénière comme étant une ruche. Hein. Vous avez pendant 3 jours et demi, donc c'est pas beaucoup, mais vous avez 10 000 personnes qui débarquent d'un coup et c'est une fourmilière et c'est extrêmement intense. Vous prenez le train le matin, le lundi matin, vous repartez à Bruxelles le jeudi en début d'après-midi, les 3/4 des gens dans le train de retour, ils dorment. Ils dorment parce qu'ils sont sur les rotules, parce que tu as la masse de travail que tu dois faire normalement, plus en plus tout le travail que tu dois faire spécifique aux plénières, donc préparer des votes en plénière, des négociations, des trilogues, etc. etc. Et ça fait des journées très très longues et qui sont extrêmement épuisantes. Et à la fin, t'es juste sur les rotules le jeudi, quoi.
D'accord. Malek ?
On parlait... Alors, c'est comment les soirées dans la bulle européenne ? Je suis désolé. Hein,
c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. Okay.
C'est plutôt pas mal. Juste un conseil, ne cherchez jamais à suivre des Polonais dans un lobe-bois.
Ok.
Ça, c'est le conseil que je vous donne.
On le note.
Non, ma question, c'était tes collègues, quelle que soit leur nationalité, en réalité, ou leur bord politique, ils voyaient comment le fait que tu sois actif sur Twitch, sur Twitter ?
Alors, ça a été très particulier, parce que donc, moi, j'ai commencé mes assistants il y a 11 ans de ça.
Ok.
Pendant très longtemps, en fait, j'étais anonyme. J'ai commencé à devenir une personnalité, on va dire, connue du public il y a 3 ans. Enfin, quand j'ai reçu le prix Jean Monnet. Donc, à partir de là, j'ai révélé qui je suis. Mais sinon, avant, je cachais ce que j'étais parce que, d'une part, j'étais dans le Parlement européen, je n'avais pas envie de me faire virer parce qu'il y avait un vrai risque. Hein, la culture n'était pas la même. Aujourd'hui, je serais dans le Parlement européen, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Il y a 11 ans, ce n'était pas franchement énorme. Avant de te dire, j'ai un assistant qui fait des mèmes sur Internet, bon, pas vraiment. Mais sinon, c'était marrant parce que du coup, il y avait des moments où j'avais des collègues qui me disaient « Ah ouais, tu connais ce mec, mais pas 600 et tout. » Ouais, il a l'air sympa, ce mec. Et sinon, Twitch, c'est marrant maintenant parce que ça arrive. Maintenant, je vais dans des réunions, etc. pour le boulot. Et ça arrive semi-régulièrement qu'il y ait des gens qui me disent « Ah ouais, je vais juste te dire bonjour parce que voilà, je suis ce que tu fais sur Twitter et sur Twitch. C'est génial ce que tu fais, etc. » Et donc, c'est plutôt marrant, je trouve, de ce début de reconnaissance. C'est toujours un petit peu bizarre pour moi parce que ça commence tout juste, mais j'aime bien.
Tu parles d'Europe sur Internet, tu parles d'Europe à des gens, tu parles d'Europe à des jeunes, tu l'as dit tout à l'heure, tu dois être aux premières loges de ce fameux désintérêt. Il y a un désintérêt pour les questions européennes qui s'exprime majoritairement chez les jeunes.
En fait, la difficulté, c'est, je ne pense pas qu'il soit un désintérêt objectif. Le problème qu'on a avec la politique européenne, c'est que je dis souvent que c'est comme un brouillard, en fait, l'Europe. C'est les gens... Ils savent qu'il y a quelque chose à Bruxelles, mais c'est pas palpable, ils n'arrivent pas à voir ce que c'est. Et donc, un des objectifs, c'est d'essayer d'un peu de mettre fin à ce brouillard et d'amener l'Europe chez eux, les amener à se confronter, ou du moins à poser leurs questions à des gens qui sont dans la bulle européenne. Et je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé, une des raisons pour laquelle je suis allé sur Twitch. Twitch, j'ai découvert via toi, Jean, quand les articles commençaient à être faits en 2016.
Ouais.
Et j'ai fait mon premier passage sur Twitch, et c'est le moment où j'ai décidé de faire une chaîne Twitch après les élections, en 2018, parce que je bossais sur une directive droit d'auteur, où à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, article 13, on pensait que l'Internet allait être détruit, les mêmes allaient être interdits.
Je me souviens.
C'était grand n'importe quoi.
La directive droit d'auteur. Putain.
La directive droit d'auteur, ça paraît drôle comme ça, mais je veux dire, c'était une des campagnes les plus violentes de l'histoire de l'Europe. Je veux dire, c'était les moments où on se prenait des menaces de mort tous les jours, le rapporteur était sous protection policière, enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les YouTubeurs qui s'étaient mobilisés pour ça.
Ouais.
Et un jour, donc, mon député était co-négociateur sur ce texte-là. Et le youtubeur Guillaume Slash, que je salue au passage, avait fait une vidéo de voilà, j'ai reçu ce mail qui parle de la directive droit d'auteur et voilà ce que j'en pense. Et à la fin, il dit moi, j'aimerais bien avoir ce député sur mon plateau pour en parler. J'ai dit devant mon chef, j'ai dit allez, YOLO, vous m'envoyez, on y va. Et il m'a dit ok, vas-y. Et donc, j'ai fait 3 heures de stream, je suis allé à Toulouse, et j'ai fait 3 heures de stream face à des gens qui étaient majoritairement opposés à moi à la base. Et ça a été une expérience extrêmement intéressante parce que des gens qui, à la base, étaient vachement contre moi, le simple fait qu'ils puissent mettre un visage sur une législation européenne et qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de leur expliquer, vous voyez quoi, j'étais pas quelqu'un qui était jeune, qui comprenait Internet, etc., ça a fortement détendu l'ambiance. Et à la fin, les gens n'étaient peut-être pas complètement d'accord avec moi. Ils disaient, mais ok, ça va, c'est pas un truc de fou furieux.
Ça veut dire qu'il suffit de parler d'Europe pour dépasser le désintérêt ?
C'est pas seulement que ça permet de dépasser le désintérêt, c'est que déjà, ça permet de décrypter. Ça te permet de réduire les tensions parce qu'en fait, c'est beaucoup de frustration, en fait.
Ouais, c'est vrai.
C'est beaucoup de frustration. Mmh. Et le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, qui est capable d'expliquer et de mettre un sens sur ce qui se passe, eh ben, ça réduit les tensions et ça permet derrière aux gens de dire « Ah ouais, en fait, c'est plutôt intéressant ce qui se passe. » Surtout quand on regarde les enjeux européens, c'est des trucs qui sont extrêmement important, je veux dire l'environnement, etc.
Il y a un point paradoxal que je voudrais soulever et que je voudrais que tu commentes, c'est l'extrême droite n'a jamais été aussi forte en Europe, et pourtant l'euroscepticisme a l'air d'être passé de mode. On en parle beaucoup moins que dans les années 2000 et 2010, où l'euroscepticisme, vraiment les gens, notamment l'extrême droite, ne parlait que de ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne veulent plus sortir de l'Europe ou ils en ont peur ?
Ils ont changé. En fait, je dirais que l'euroscepticisme a changé de forme. T'as raison, avant on parlait beaucoup, on vous disait faut le Frexit, etc. Mmh. etc.
Mmh.
Et en fait, entre temps, on a eu le Brexit. Les gens ont vu que la conséquence, qu'en fait, c'était peut-être pas si fun que ça de sortir de l'Union européenne. Mmh. Et du coup, ils ont changé de discours. Hein, vous avez vu, après 2017, plus personne ne parle de Frexit, plus personne ne parle de plan B. Et en fait, il y a eu un changement un peu de stratégie dans le sens où ils ont arrêté de dire faut sortir de l'Europe et ils ont arrêté de se revendiquer eurosceptiques. Et en revanche, ce qu'ils disent, dans le discours sémantique, ils disent « je ne suis pas européen ». C'est le nouveau discours, en fait.
Ah oui, c'est
le procès en Europe.
Ils le disent tous.
Et en fait, c'est une manière de retourner en fait, le truc en disant « en fait, le problème, ce n'est pas moi, c'est des gens qui sont déraisonnables sur l'Europe ». Et en fait, les gens qu'on qualifie d'eurosceptiques, maintenant, c'est ceux qui font le procès en eurobéatitude. Et en fait, quand on commence à creuser, même s'ils disent qu'il ne faut pas quitter l'Europe, quand on regarde les conséquences de ce qu'ils veulent faire, ils font un truc qui est fondamentalement incompatible avec l'Union européenne. Donc, à un moment donné, si tu pousses la logique,
genre la préférence nationale, ce genre de truc, c'est fondamentalement par définition anti-européen.
La préférence nationale, si tu vas dans la désobéissance européenne, le fait que tu commences à dire voilà, le droit européen ne s'applique que quand j'en ai envie, ouais, là, il y a un léger problème de compatibilité avec l'Europe qui va très vite arriver, même s'ils disent ah non, je suis pas frexiteur, etc., etc. Mais ça, je dirais que ça a plus changé de forme, en fait, l'euroscepticisme.
Malek, tu avais une question sur les lobbies.
Oui, est-ce que tu dirais, vu que tu as été assistant et qu'aujourd'hui tu es lobbyiste, est-ce que tu dirais qu'il y a une présence plus importante des lobbies au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale, ou est-ce que c'est peut-être plus honnête parce que le poids des lobbies existe à l'Assemblée nationale, j'ai été collaborateur et, et ils existent. je salue la Fédération du chocolat.
On la salue.
Ah ouais, il a name drop.
mais je n'en ai pas bouffé. Je suis resté solide sur ça. Est-ce que tu dirais que c'est plus honnête, plus transparent? Ou est-ce qu'il y a juste un poids qui est plus important?
C'est les deux, en fait. Faut savoir que Bruxelles, c'est la deuxième plus grande concentration au monde de lobbyistes, après Washington. Pourquoi? Parce que le droit européen a une telle importance que du coup, c'est là où vous voulez peser sur les choses. Si vous voulez peser sur quelque chose, c'est au niveau européen que vous devez venir. Donc c'est pour ça qu'il y a une énorme concentration de lobby, parce que le pouvoir en réalité de l'Union européenne est extrême. Alors je sais que quand on est en France, ça paraît un peu absurde de penser qu'il y a un centre de pouvoir équivalent, voire même plus important que Paris, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que Bruxelles, il y a beaucoup de choses très importantes qui se décident, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lobbyistes. Et aussi, il y a une culture qui est différente. Le lobby est considéré comme étant parfaitement normal, parfaitement accepté à Bruxelles. C'est intégré, c'est organisé, et d'une certaine manière, c'est plus transparent. Et quelque part, ça touche aussi à la perception qu'on peut avoir du lobbying. Je veux dire, en France, le lobbying est souvent perçu comme étant quelque chose relevant de la corruption.
Oui.
C'est faux. Oui. Ça n'est pas de la corruption. Le lobbying, au contraire, c'est quelque chose qui est même... Je finis juste sur ça. Qui est quand même essentiel à la démocratie. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, en fait, que c'est essentiel à la démocratie. C'est Transparency International qui dit que le lobbying, c'est quelque chose qui est important parce que, en fait, il n'y a rien de pire si vous êtes un politique que d'être quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui fait la politique au domier.
Mais tu reconnais quand même qu'il y a une inégalité de moyens et donc une injustice entre les lobbies d'intérêts privés très puissants et très riches, parce que très riches, et de la défense d'intérêts généraux comme des communs, comme de l'environnement.
Alors c'est plus subtil que ça. C'est pas ça. L'influence n'est pas seulement une question de moyens. Alors effectivement, si tu as beaucoup de moyens, tu as beaucoup plus de puissance de feu, c'est vrai. Mais les ONG, et pas qu'elles, ont aussi trouvé des moyens de compenser ça. C'est-à-dire souvent, elles vont se mettre en coalition et suivant le moment dans lequel on va être, parfois, en fait, les ONG vont avoir plus de pouvoir. En fait, quand tu es le sommet de l'influence...
Toi, tu as vu à Strasbourg des ONG parvenir à obtenir des revirements de décision.
Bien sûr. Les ONG ont une influence. Enfin, je veux dire, regardez les questions agricoles, les questions environnementales, les ONG ont gagné des combats. On a cette idée, c'est vrai que quand on est une ONG, on a probablement moins de moyens que si on a un Google, que si on a Amazon, etc., etc. Mais on a d'autres outils qu'on peut utiliser, qu'on peut avoir à sa disposition. Et c'est le lobbying, en fait, il faut voir ça comme étant une boîte à outils. C'est un outil qui est neutre et vous utilisez, vous allez piocher dans ces outils. Par exemple, une ONG, vous allez pouvoir plus facilement faire une grande campagne de communication sur les réseaux sociaux, mobiliser les gens, faire des pétitions, etc., que si tu es une entreprise. Une entreprise, ça ne va pas faire une pétition. Donc, même s'il y a une inégalité, c'est vrai, il faut le reconnaître. D'une part, la manière dont le lobbying est organisé au niveau européen essaye d'équilibrer les choses. Par exemple, la Commission européenne cofinance beaucoup de lobbies, beaucoup d'ONG, pour essayer de donner justement des moyens aux ONG et d'équilibrer un peu le rapport de force et permettre à la société civile d'être présente. Et aussi, c'est organisé. C'est-à-dire, les députés, on va les encourager, surtout maintenant il y a de la transparence, à rencontrer des ONG, à rencontrer aussi des industries, etc., etc. Donc, la manière dont c'est organisé essaie de compenser un peu cette inégalité des armes.
Safia ?
C'est justement la question que j'avais, parce qu'on parle d'essayer de compenser, de mettre en place peut-être des incitations des députés à parler, etc. La réalité, c'est qu'en fait, je pense que l'inégalité de moyens et les puissances et les influences sont extrêmement corrélées. Est-ce qu'au-delà des démarches de compensation, l'Union européenne est dotée d'un outil, d'un arsenal juridique par rapport au lobby pour un peu, je ne sais pas, légaliser ou encadrer ces rapports, ou pas du tout?
Alors, il y a un encadrement, mais pas une régulation du lobbying.
D'accord.
Je précise.
C'est-à-dire
qu'il n'y a pas de loi qui est sur le lobbying au niveau européen, qui va par exemple donner des sanctions, des amendes, etc. Ça, il n'y en a pas. En revanche, il y a un encadrement. Par exemple, ça fait 15 ans maintenant, voire même plus, qu'il y a un registre de transparence où les lobbies doivent... C'est volontaire, mais de facto, 95%.
C'est super tendre quand même. C'est-à-dire que là, c'est sur du volontariat.
C'est sur le volontariat, mais en fait, c'est là où tu mets la carotte. En fait. C'est-à-dire que si tu t'enregistres, eh ben, tu as accès au commissaire européen, tu as accès au plus haut gradé de la Commission européenne, tu as des accès facilités aux institutions, etc., etc. Donc en gros, si tu veux rencontrer des gens qui sont vraiment influents, tu as intérêt à t'inscrire. Et dans les faits, la quasi-totalité des lobbies à Bruxelles sont enregistrés.
Donc, de l'incitation et pas de contrainte.
Pour le moment, non. Et c'est un sujet de débat qui est aujourd'hui. Il y a eu plein de débats dans le cas du Qatargate, etc. Du scandale du Qatargate, etc.
Du Qatar, oui.
Il y a des efforts pour faire ça. Cette semaine, ils ont voté notamment la mise en œuvre d'un nouvel organe d'éthique. Mais en fait, derrière, il y a des questions un peu pratico-pratiques. Je veux dire, moi, je vois maintenant la manière dont j'étais de côté de la dame, encore une fois. Admettons que tu dises tous les députés n'ont le droit d'encontrer que des lobbies qui sont enregistrés. Très bien, sur le principe. Moi, je suis pas pour la transparence. Ils vont dans leur circonscription, il y a une entreprise locale qui vient les voir pour dire moi je suis emmerdé par cette législation. Est-ce que le député doit accepter ou pas? Parce qu'après tout, on va dire c'est une entreprise qui va essayer de me faire du lobbying, mais en même temps, c'est quelqu'un de ma circonscription. Donc en fait, il y a des cas un peu pratiques où en fait, on rentre dans une zone grise qui devient extrêmement complexe en fait, et très subjective à réguler. Après,
il y a le bon et le mauvais lobbying, ça dépend qui.
Voilà, c'est ça. Il y a le bon lobbyiste, le bon lobbyiste il envoie des amendes, le mauvais lobbyiste il envoie des amendements, mais c'est un mauvais lobbyiste.
C'est un peu ça.
C'est un peu ça, mais in fine, le lobby il est là pour donner des informations et après c'est une décision politique. C'est une décision politique. Les députés ils rencontrent les gens et après ils prennent leur décision politique. Quel côté ils veulent défendre, quel sujet les convainc sur le plan technique et politique. Moi je dis toujours que une décision c'est la combinaison d'une décision technique, le fond, la législation, et une décision politique. Quel secteur on a envie de défendre, quel secteur on a envie d'aider.
On va continuer à parler de participation politique avec notre deuxième invité de la semaine. Je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour Béla Beltaïef. Salut Béla. Salut Béla, merci d'être avec nous sur le plateau de Blackseat. Béla Beltaïef, je le disais, tu es la cofondatrice de Your Future.
La fondatrice et effectivement cofondatrice de Her Future. Je me donnerai une joie de tout vous expliquer.
Mais tu vas tout nous expliquer. Alors ça se prononce Her Future, donc c'est E-U-R. Je ne sais pas s'il fallait dire.
C'est
humour.
Un jeu de mots en fait.
Mais c'est incroyable comme
voilà,
jeu de mots.
Voilà, Your Future et Her Future en français avec la notion de l'heure et le futur tout simplement.
C'est incroyable. Tu vas nous raconter tout ça. Ah, ça a commencé en fait en 2021. Ici au Parlement européen, tu étais invité pour poser une question. Et on a la vidéo de cette question que tu as posée en 2021.
So just pretty clear, we're here to prepare the next 2014 elections as the future generation. It is also obvious that most of us in this plenary are politically oriented. But my question is, how do you get young people from the priority neighborhoods, the urban areas where I'm from, to vote and be interested in the spirit of Europe? And give them back the taste of voting, especially in moments of national tensions and social disparity. Thank you.
Une question, somme toute, assez straightforward. Quelle a été la réponse que tu as obtenue?
Alors, c'était une réponse assez complète, certes, mais qui ne me plaisait pas du tout.
Ah ouais?
Alors, d'une part, c'était la personne qui avait répondu, elle était, je crois, du comité en Espagne, un truc comme ça. Donc, elle était forcément au courant de ce qui se passe au sein de la France. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était pendant les émeutes.
Ça, c'était au moment des émeutes.
Exactement.
2021,
Donc, c'était très symbolique. En fait, cette question, je voulais vraiment la mettre au cœur du débat pour leur dire, OK, vous proposez aux jeunes de voter, vous leur dites d'aller voter, mais vous oubliez quand même une certaine minorité qui, aujourd'hui, représente une grande majorité. Et donc, du coup, je me suis permise de poser la question et j'étais pas satisfaite. Et le problème, c'est que ça a continué. J'ai continué à participer à beaucoup d'événements et à chaque fois, c'était les mêmes réponses. On me renvoyait soit à des associations de quartier, soit voir entre les citoyens qui sont dans les quartiers, etc. et chercher la réponse par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait.
Donc le constat que tu fais, c'est un manque de considération des personnes qui vivent en banlieue.
Clairement.
Manque de prise au sérieux de leurs paroles, de leurs vécu. Et donc, c'est pour ça que tu as créé ta propre organisation.
Exactement, c'est ça. Et en fait, Lo, justement, parce que je sais que tu es derrière une incroyable organisation. Alors, moi, en fait, j'ai décidé de mettre en avant et les milieux ruraux et les banlieues, parce que justement, ce sont les deux minorités, on va dire, qui sont oubliées. Mmh. En fait, on revient à chaque fois, tous les 5 ans, toquer à leur porte pour justement recueillir leur voix et recueillir leur vote. Mais personne ne va voir pendant les crises si tout va bien. Et voilà. Et en fait, je suis allée recueillir justement ces témoignages de jeunes qui s'abstiennent. Alors, on va en venir, hein. Mais il y a les personnes qui s'abstiennent parce que voilà, c'est une manière de démontrer justement clairement qu'ils ne sont pas contents avec le système, et d'autres personnes qui s'abstiennent parce que justement elles ne sont pas au courant et elles partent du principe que c'est un concept élitiste et qu'en fait ils n'ont rien à faire justement dans ces instances politiques.
Lorraine, toi aussi, c'est le constat que tu fais ?
Exactement, en fait c'est un peu le j'y connais rien, je ne suis pas assez informée, je ne suis pas assez diplômée, je ne suis pas juriste ou je n'ai pas fait Sciences Po Paris, etc. Donc je n'ai pas mon mot à dire, donc je laisse... ma voix et la possibilité de décider pour moi à d'autres personnes que je considère plus informées, etc., et plus compétentes et compétentes. Sauf que, en fait, ce qu'on leur dit, c'est que ces personnes-là, ne serait-ce que déjà en termes de classe sociale, n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée déjà de leur laisser ce pouvoir-là ? Évidemment que non. Et en plus, après, il y a toute cette idée autour de la politique où, en fait... finalement, en banlieue, c'est un peu la politique Berck. Moi, je suis devenue conseillère municipale en 2020, maintenant. Dans tout mon entourage, on se fout de ma gueule, genre en mode non, mais toi t'es la politicienne, t'es chelou.
T'es rentré dans le cercle chelou, exactement, dans la bulle. Tu fais partie de la bulle de la politique, ouais, je comprends.
Tu fais partie de la bulle, donc on doit. Enfin voilà, il y a tous les clichés, t'es corrompu, de toute façon tu vas trahir et compagnie et compagnie. Donc il y a plein, de choses comme ça. Après, il y a aussi toute l'histoire de en tout cas, ce que moi je connais des banlieues. En France où effectivement il y a eu des émeutes, etc. Moi j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, émeute de 2005 et tout ça. Donc il y a une grosse méfiance et en même temps un manque de connaissances. Donc je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et finalement, en fait, quand on vient à leur rencontre, on te leur dit en fait finalement tout est politique. Tu prends pour venir, nous on a souvent des lycéens, pour venir au lycée t'as pris le bus, le train, même le vélo, c'est politique. Et là, en fait, ça ouvre un dialogue. Ils disent en fait, peut-être que vous êtes peut-être pas mal.
Mais ouais. Je suis très content de vous réunir sur ce plateau, toutes les deux et toutes les trois, tous les grands. En fait, parce qu'on est tous dans le même combat. Moi, c'est celui que je mène depuis bientôt 10 ans. Et la question est toujours ouverte. Je n'ai pas la réponse. Et du coup, je te la pose. Comment on fait pour intéresser les jeunes des quartiers prioritaires à la politique ?
Alors, c'est très simple. C'est compliqué. Alors, nous, on a décidé justement, avec ces personnes issues des QPV et des milieux ruraux, de travailler sur 3 secteurs très, très différents, mais qui ont un socle commun. Alors, moi, j'ai commencé comment ? D'ailleurs, il faut savoir que je l'ai créé il y a 3 mois, l'association, donc c'est encore un petit bébé.
Donc, c'est encore tout récent.
Exactement. Mais on a déjà commencé, on s'est mobilisé avec de grandes actions. On a commencé par le volet culturel. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a approché les centres socioculturels, parce que faut pas oublier que les centres socioculturels sont des structures qui sont implantées dans les quartiers populaires depuis des années. Et nous, on ne peut pas se permettre de venir ici et dire « Ouais, je vais vous montrer comment on fait la politique ». Il faut aussi aller et demander des conseils de nos anciens et savoir clairement comment faire. Mais on peut aussi apporter cette vague de fraîcheur et leur montrer et leur dire « En fait, je pense qu'on peut faire les choses autrement parce que maintenant, les temps évoluent ». D'ailleurs, il y a même le très grand sociologue Henri Rey qui a travaillé pour Sciences Po depuis 1983 et qui a établi le fait que justement, les quartiers populaires évoluent. Il n'y a pas les mêmes citoyens. Au début, on avait une diaspora israélite. Ensuite, ça s'est transformé pour accueillir de plus en plus de Maghrébins. Et par la suite, voilà, à chaque fois. Donc, et en fonction des citoyens qui viennent occuper justement ces lieux-là, au milieu de la précarité, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils vont voter pour un parti ou pour un autre. Aujourd'hui, ça commence à changer. Et moi, c'est ce qui me perturbe. D'une part, il y a les abstentionnistes. D'une autre part, on se tourne vers l'extrême droite. Et pour répondre enfin à ta question, du coup... Donc, on passe par 3 volets. Le volet socioculturel, donc la culture. Ouais. Le socio-cultuel, c'est-à-dire on passe par les communautés religieuses. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on est dans un pays laïque, certes, mais il faut aussi passer par les communautés religieuses pour justement mobiliser les représentants religieux, c'est ça. Donc, nous, on a fait un repas pendant Ramadan, une rupture du jeûne, un repas œcuménique avec des chrétiens, des juifs, des musulmans. On a invité l'UEJF avec l'EMF. Au début, on appréhendait, mais en fait, ça s'est passé super bien.
Ouais.
Et autour des élections européennes, pour les mobiliser. Et enfin, on a le volet académique. Donc, on a signé un partenariat avec l'Académie de Strasbourg. Et donc, du coup, on passe, on fait la tournée des établissements et on sensibilise des promos dans les quartiers.
Voilà. OK, d'accord. Malek ?
Tu as vu ce chiffre-là qui tourne de 76% des 18-34 ans qui n'ont pas l'intention de voter aux élections européennes. Je pense qu'au delà même de notre génération, parce qu'on cible là quartier populaire, notre génération, les Français en fait s'en tapent, parlons français. À quoi bon faire tout ça, Bella ?
À quoi bon faire tout ça ? Alors moi, je ne suis pas de nature défaitiste, je te dis la vérité. Donc en fait, je suis déjà très passionnée par le sujet. J'ai une passion quand je parle avec les personnes, justement, par rapport à la politique. Et je t'avoue que je ne prétends pas à tout changer, on ne peut pas tout changer. Mais on peut semer cette graine et la laisser germer par la suite. Moi, par mes constats, tu vois, en faisant le tour des quartiers, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'autocensure. Et en fait, ça, c'est assez malheureux parce que tu vas les voir et tout, et tu leur poses des questions, et tu vois qu'ils s'y intéressent. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que les quartiers populaires et même les milieux ruraux ne sont pas des déserts politiques. La politique a toujours existé dans ces milieux-là. Et alors, prétendre à ramener la politique et des injonctions, c'est juste être narcissique, hein, je suis désolée, c'est avoir un grand ego. Et il suffit juste d'aller justement dans ces milieux, comprendre comment ça se passe, recueillir les témoignages et justement porter la voix. Et c'est pour ça que j'ai créé Heure Future, c'est justement pour porter ces voix qui sont invisibles et les ramener aux instances politiques. Et d'ailleurs, je pense que c'est avec des interventions comme ça qu'on remarque justement ce qui se passe et il ne faut pas attendre les moments de crise quoi, pour agir.
C'est une question que je vais vous poser à tous les cinq parce que c'est ce qui nous anime dans cette émission à l'occasion de ce partenariat ici au Parlement européen à Strasbourg à quelques semaines d'une élection majeure. Comment on intéresse aux enjeux européens ? Moi, j'ai l'impression que c'est un challenge énorme. J'ai l'impression que poser même la notion de dire on va parler des enjeux européens, c'est déjà perdre au moins la moitié de l'audimat qui, en fait, le mot Europe fait encore fuir les gens en se disant « putain, ça va être casse-couille, on va rien becter encore une fois, et ça paraît lointain et ça paraît… » Enfin, voilà.
Moi, j'ai tendance à dire tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Moi, par exemple, j'utilise de l'humour, je fais des mèmes. Je peux faire une conférence d'une heure sur un trilogue ou alors je peux faire un mème qui explique en une idée, qui fait passer une analyse politique. Les gens vont rigoler, vous verrez peut-être qu'il y a un truc à creuser. Je fais, là en ce moment, tous les jours jusqu'aux élections européennes, je publie chaque jour une anecdote sur l'Europe. Une citation, un truc intéressant, etc. Je fais des streams. J'ai fait un partenariat avec France Télévisions où ils m'ont laissé diffuser sur ma chaîne Parlement, la série qui se passe au Parlement européen. Wow, ouais. J'ai diffusé sur ma chaîne et je faisais le commentaire.
T'as eu les droits de diffusion ?
Ils m'ont donné.
Oh, cool. Wow. En même temps, ils sont adorables.
Tu n'as pas payé ?
J'aurais demandé autorisation, j'ai dit bah ok, allez-y.
Ça n'arrive jamais dans le paysage audiovisuel.
Je sais pas, j'ai demandé.
Il nous donnera ses tips après.
Il m'autorisait, je fais ok, très bien, je vais pas me plaindre.
J'ai fait un stream avec eux, j'avais interviewé Xavier Lacaille, ouais. L'acteur principal de la série Parlement, je me souviens. Mais donc c'est très cool si t'as pu faire un.
Et du coup, voilà, j'explique qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans la série, etc. Et voilà, j'utilise tous les outils que je peux avoir à ma disposition pour essayer de susciter un intérêt. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'essaie d'hameçonner quelqu'un. Et me dire, bah voilà, peut-être qu'il va retenir un petit truc d'Europe et après, derrière, il va s'intéresser et je vais le choper derrière et l'intéresser à plus en plus de sujets, lui faire comprendre qu'il y a des choses qui se passent en fait en Europe et des choses qui le concernent et qui vont l'intéresser. Et ça peut commencer par de l'humour, ça peut commencer par amener une personnalité politique qui l'intéresse pour parler d'un sujet qui l'intéresse. Voilà, tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire.
Malek, comment on fait ?
Je pense que les députés qui seront élus après le 9 juin auront une responsabilité. Quand on demande aujourd'hui, je me suis permis de demander à mes potes, pour vous, l'Europe, c'est quoi ? Ils m'ont tous parlé du Covid.
Ouais,
parce que pour le coup, ils ont su à quoi avait servi l'Europe à ce moment-là. Bon, après, certains me parlent aussi de la guerre et de l'Ukraine. Mm-hmm. D'accord ? Je pense qu'il va falloir un vrai travail de nos prochains élus pour avoir un impact concret, en tout cas, dans l'explication, un impact concret dans la vie des gens, parce que ça paraît toujours très lointain. La disposition, la réglementation avec un numéro infini, les gens s'en tapent, encore une fois. Mm-hmm. Donc, peut-être parler de manière très, très simple et de manière très concrète aux Français, quoi.
Ok, d'accord. Lorraine ?
En fait, nous, avec Cité des Chances, on a une méthode où on se dit on part des gens. Parce qu'en fait, on a tous et toutes des causes qui nous tiennent à plus ou moins à cœur. Il y en a, ça va être les animaux, il y en a, ça va être l'écologie, il y en a, j'en sais rien, ça va être la mode ou peu importe. Et en fait, du coup, on essaye de savoir, qui on a en face de nous, c'est quoi leurs enjeux locaux. Par exemple, nous, notre association, elle est née à Fos, on a un aéroport à 10 minutes de chez nous.
Val-d'Oise.
9-5 représente. on a un aéroport à 10 minutes de chez nous. On a des nuisances sonores, etc. Et là, on essaye de partir en fait de ça et de leur dire, ok, en fait, ça c'est une décision politique. Dans cette décision-là, l'Union européenne peut intervenir, l'État, la région, etc., etc. Et en fait, les gens ils se rendent compte, finalement, ces institutions-là prennent des décisions pour moi. auxquels je ne m'intéresse pas. Donc là, je parle en tant que jeune de quartier populaire généralement. Et donc, c'est problématique. Et moi, souvent, ce que je dis aussi, c'est que bah, finalement, en fait, on paye des impôts, tous et toutes, que ce soit TVA ou etc. Et en fait, ça sert à financer bah, un certain nombre de choses. Et finalement, bah, si on ne vote pas, si on ne s'y intéresse pas, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec notre argent. Et bah, et tant pis pour nous, en fait. Et je pense que personne n'a envie qu'on vienne prendre dans son compte et qu'on dise « Non, mais t'inquiète, je fais les courses pour toi, tu mangeras plus tard.
» Safia ?
Moi, je vois plusieurs choses. Je pense qu'en réalité, dans la période qu'on est en train de traverser, y compris les abstentionnistes dont tu parlais, qui n'ont pas forcément de regard ou de visibilité sur les institutions, sur les gens ou ce qui se passe, vont être amenés, je pense, à s'intéresser à l'Europe dans la période. Il y a quand même le contexte de guerre qui inquiète énormément de monde, notamment la guerre en Ukraine. Il y a le contexte de l'inflation, notamment durant cette guerre, qui va traverser les pays européens. Les gens se pensent, se questionnent par rapport à la concurrence au travail, par rapport à l'inflation, par rapport à comment nourrir la fin du mois. Les gens savent que c'est un enjeu européen et mondial. Il y a aussi la question de l'immigration. Et avec beaucoup de jeunes de notre génération et issus des quartiers populaires comme nous, on a été frappés par les drames en Méditerranée, dans la Manche, avec les scandales de Frontex. Donc je pense qu'en réalité, il y a une politisation qui peut se faire autour de l'Union européenne. Mais moi, je voulais revenir sur quelque chose, c'est qu'on ne peut pas nier qu'on va dire ce que nous, on va appeler le désintérêt pour l'Union européenne, pour les élections. Ça a à voir, si on parle comme des sociologues, par rapport à un désintérêt, par rapport à l'institution, par rapport à un manque de confiance, par rapport aux partis politiques institutionnels. Et même, moi, je suis issue d'une association, c'était SOS Racisme, en lien avec les partis politiques institutionnels, eux aussi étaient dans une dynamique de vouloir faire voter les banlieues, vouloir faire voter les quartiers populaires. Sauf qu'en fait, bah, ils étaient dans un entre-deux en disant « Ouais, nous, on fait voter, mais vous inquiétez pas, on n'est pas comme dans les partis, parce que tout au long de l'année, on va être là, on va essayer de porter vos revendications. » Sauf qu'en fait, être un acteur associatif et antiraciste, c'est être confronté à l'institution et être confronté au parti. C'est toujours être dans un compromis où, en même temps, on essaye de faire du lobbying antiraciste, mais en même temps, on doit abandonner plein de revendications. Mmh. Et au final, le parti, l'institution sont toujours plus puissants, en fait, pour imposer leur agenda. Et moi, justement, je voulais savoir et te poser une question plus spécifiquement. Est-ce que, du coup, tu as conscience que, du coup, tu n'es pas la première à essayer ? Est-ce que tu tentes des nouveautés ? Et est-ce qu'au final, ce monde-là, tu le connais bien ? Parce qu'en réalité, pas tout le monde n'est invité pour poser une question à l'Union européenne.
Alors, je te remercie pour cette question qui est très pertinente. Du coup, je ne suis ni la première ni la dernière, je pense, déjà à m'introduire dans le monde associatif. C'est un monde qui est très, très profond et très complexe. Je ne suis pas là non plus pour forcer les gens à voter, parce que de toute manière, comme dit tout à l'heure, j'ai dit que je suis là pour semer la graine à l'intérieur du cerveau des personnes, dans l'esprit des personnes, pour qu'un jour ça puisse germer. Et pour la plupart, je n'ai même pas besoin de le faire, parce que ce sont des personnes qui sont déjà politisées. C'est juste des personnes qui ne décident pas de faire confiance au système. Exactement. Parce que voilà, il y a des faits et il y a des constats qui sont effectués. Et donc, du coup, ils se sentent isolés, se sentent laissés de côté. Donc moi, je sensibilise pour leur dire, voilà comment le système fonctionne. Si toi, tu pars du principe que tu veux changer les choses, tu es quand même obligé d'avoir des notions communes et savoir comment fonctionne le Parlement, comment fonctionne l'Assemblée. Tu ne peux pas juste prétendre à vouloir combattre un système alors que tu ne sais pas comment il fonctionne. De plus, pour ajouter ça, je trouve ça très très bien que tu puisses parler de SOS Racisme, justement, parce que Heure Future combat également la discrimination. En fait, le combat de la discrimination et le combat à l'abstention sont intrinsèquement liés. Les gens me posent des questions, me disent « Mais c'est quoi le rapport ? Tu veux combattre la discrimination ? Tu veux faire ça aussi ?» En fait, c'est lié parce que beaucoup de personnes s'auto-censurent parce qu'ils ne se pensent pas légitimes, parce que justement, ils sont noyés dans ces stéréotypes. Quand ils s'y intéressent directement, c'est des commentaires racistes qu'on voit en premier. Totalement. Et donc, du coup, bah, ils sont absorbés et ils sont complètement isolés. Ils s'auto-censurent d'autant plus. Donc, le fait est que je ne pourrais pas changer les choses de la manière dont on voudrait, mais je le fais à ma façon. Et je sais que j'y parviendrai dans le sens où il y aura un changement, parce qu'on a tous quelque chose à apporter et on a tous un impact. Maintenant, si on part du constat selon lequel je vais tout changer, ce n'est pas possible. On a besoin de l'aide des autres. On ne peut pas faire un travail tout seul. Et c'est pour ça que moi, je compte sur les actions qu'on mobilise actuellement pour, en tout cas, faire un constat et que les gens se disent « Ok, peut-être que je ne vais pas voter pour le 9 juin, mais je sais qu'au fond de moi-même, c'est quelque chose de très important et je porterai cette responsabilité et ce fardeau sur le dos. »
Je voulais juste rajouter sur comment faire voter les jeunes aussi, également, vu que tu parles de, enfin, vous parliez de discrimination notamment, il y a une notion aussi très importante et avec laquelle on a énormément de mal en France, c'est la notion de représentation, parce que direct on dit « ah non mais c'est du communautarisme, oh mon Dieu, vous voyez les couleurs, c'est très grave, etc. » Mais moi, rien que le fait d'être une jeune femme noire qui a grandi à Clichy-sous-Bois, qui fait de la politique à 26 ans, etc., bah, en fait, je vois des gens qui viennent vers moi, ils se disent « ok, bon, je me méfie un peu, mais comme tu me ressembles, peut-être on peut discuter et voir, voilà, qu'est-ce qui peut en émaner de ces discussions-là. » Et ça donne envie à des gens de s'engager, ça donne envie à des gens de potentiellement faire confiance. Après, il y a aussi des gens qui sont des cautions et qui ont dégoûté, hein, ça c'est sûr. Et parfois, le système est plus fort que nous. Moi, dans ma petite expérience, je peux vous dire que j'en ai bavé. Mais j'essaye de tenir justement en me disant, la petite Lorraine qui commençait à 16 ans, il y a 10 ans, elle aurait été contente de voir, de me voir aujourd'hui et de s'inspirer et se dire pourquoi pas un jour. Je ferai de la politique aussi, quoi.
Si je peux juste rajouter une petite
parenthèse. Vas-y, rajoute, ouais. Bella, je t'en prie.
Je vais juste rebondir par rapport à ça. Bah, justement, tu vois, je vais te donner un autre exemple. On était à l'association parlementaire et en fait, il y avait des personnes qui venaient qui disaient « Nous, on a fait ça dans les QPV, machin. » Alors, je te dis, ça fait 26 ans de ma vie, j'habite toujours dans le même quartier populaire, de quartier très précaire.
Les
QPV, précaires,
ce sont les quartiers politiques de la ville, les quartiers prioritaires. Ville, effectivement.
Voilà, c'est ça, le ghetto. Bon, bref. Mais tu vois, par exemple, ils parlaient pour nous en disant « Nous, on a fait ça, nous, on a fait ça, nous, on a fait ça. » Et moi, je me suis levée, j'ai dit bonjour, voilà, notre association, elle fait ça. Vous parlez, vous dites que vous venez le dialogue n'est pas possible parce que, voilà, il y a des crises, il y a des machins. Mais d'accord, mais il faut passer par les gens, justement, des QPV, les jeunes, pour essayer de comprendre comment ça se passe et avoir ce même dialogue avec eux pour que vous puissiez avoir, justement, des solutions. Le fait d'être présent, justement, dans des endroits où on est invisible, c'est super important. C'est très, très important parce que ça permet justement de porter encore plus la voix de ces milieux-là et justement de donner plus de légitimité, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup justement qui prétendent, surtout sur Strasbourg, des grandes associations qui prétendent justement faire le tour, faire des choses, etc. Mais il n'y a rien qui est fait concrètement. Pour moi, personne faire quelque chose, c'est être sur le terrain. Par exemple, nous, on a passé le dimanche avec des potes à moi, autour du quartier, tout ça. Il pleuvait, il faisait froid, mais on partait questionner les gens. Voilà, tu ne vas pas passer à la caméra, c'est pas grave, je te pose juste des questions, je veux connaître ton avis. Mais est-ce qu'eux se cassent la tête pour faire ça ? Voilà.
Moi, c'est là où je te rejoins, c'est qu'il y a un enjeu que je pense prioritaire quand on parle de politique aux jeunes, c'est plutôt que de leur parler et plutôt que d'être dans une posture d'injonction, notamment l'injonction à voter, juste fermer sa gueule et les écouter. Cette espèce de truc que personne ne fait, très peu, de simplement laisser la parole venir d'en bas, laisser les jeunes se saisir eux-mêmes des enjeux, leur laisser faire des propositions, les laisser expérimenter eux-mêmes, créer des assos. C'est ce que tu as fait, c'est un exemple. Je pense que c'est beaucoup plus puissant politiquement que d'avoir un vieux en costard-cravate qui vient l'avoir en disant « Dis donc, les jeunes, c'est important de voter. »
Oui, c'est ça.
C'est clair.
Si tu te souviens bien, c'est ce qu'avait vendu Emmanuel Macron avec la Grande Marche.
La Grande Marche en 2016.
Voilà, vous avez des militants qui vous ressemblent, qui vont vous écouter. On est là pour prendre le pouls du pays et on le fera d'ailleurs tout au long des mandats. Bon, au final...
non, mais tu vois, des exercices comme les conventions citoyennes, par exemple, c'est des exercices très intéressants, qui ont le mérite d'exister, qui en plus produisent plutôt du bon travail.
À condition d'en faire quelque chose après.
Qui ensuite est méprisé par le politique. Mais c'est le rôle du politique. C'est pas de la faute des citoyens de la convention citoyenne si ça n'a pas été bon. Chers amis, je vous propose qu'on avance dans l'émission. Je vous propose qu'on joue à un jeu débile. C'est parti pour le quiz à la con. T'inquiète pas.
C'est ma hantise, ce jeu.
Safia a très peur de ce jeu.
Si elle a peur, alors moi, je dis quoi ?
Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un quiz. Ce n'est pas un jeu où il faut deviner quelqu'un, etc. C'est un quiz. Alors, malheureusement, on ne peut pas les afficher à l'écran, je suis désolé. Je vais vous poser des questions. Je vais vous donner 4 propositions de réponses. Vous allez réfléchir et vous allez essayer de trouver la bonne réponse. Je vous demande, si vous connaissez la réponse à une des questions, de ne pas la crier.
Évidemment.
Vous laissez vos camarades galérer. C'est ça, le plaisir, le sel de ce jeu. Première question de ce jeu à la con, de ce quiz à la con. Donc, en 2023, des eurodéputés ont rempli un train, un TGV, pour se rendre à Strasbourg. Mais il y a eu un problème d'aiguillage. C'est une histoire vraie. Hein. Oui. La question, c'est à quel endroit est-ce qu'ils ont atterri, ces eurodéputés ? Non, okay, c'est pas la bonne question qui s'affiche à l'écran. Non, c'est pas la bonne. Moi, c'est la première, là. À quel endroit est-ce que ces eurodéputés ont échoué ?
Mais je crois que je connais la réponse.
Alors,
je dis rien.
Je connais la réponse et je, du coup, je verrai.
Est-ce que c'est réponse A, ils se sont retrouvés à Disneyland Paris en pleine parade d'Halloween? Est-ce que c'est réponse B, ils se sont retrouvés à Munich en pleine Oktoberfest? Réponse C, à Londres en plein Brexit? Réponse D, à Strasbourg, qui est une ville en Allemagne. Cette anecdote est vraie, hein. C'est une vraie question. À quel endroit est-ce que ces eurodéputés ont été emmenés, un TGV rempli d'eurodéputés?
Là, si je prends
et
ma
de
petite...
staff. Et de staff.
Okay.
Et de staff aussi, ouais.
Si je prends ma petite casquette aiguilleur SNCF, tout ça, pour aller jusqu'à Londres, il faut...
Ouais,
non, mais d'aiguilleur qui se trompe, là, du coup.
Par contre... problème d'aiguillage...
Par contre, en vrai, au lieu d'aller à Gare de l'Est, se perdre à Disneyland, Marne-la-Vallée...
Tu pars du principe qu'ils sont partis de Paris.
Oui. Ah oui, c'est vrai.
Mais en vrai, mais même dans, mais genre,
en vrai, ils sont partis de Paris.
Oui, non, ils sont pas partis de Paris. Mais lui, en fait. Ils sont partis de Bruxelles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un train, tous les sessions de Strasbourg, il y a un train spécial qui a freté pour amener les gens de Bruxelles jusqu'à Strasbourg. Et ce train fait d'abord Bruxelles-Paris et après Paris-Bruxelles.
Ah, c'est ce train-là, d'accord.
Et Paris-Strasbourg, pardon.
Mais du coup, là, en plus, t'as même pas donné la réponse.
Ah, ouais, je suis...
parce que du coup, okay. Il y a quand même eu un problème d'aiguillage à un moment. Où est-ce qu'ils se sont retrouvés?
Eh ben, c'est sûr qu'au lieu d'arriver à Gare de l'Est, ils sont arrivés à Disneyland.
Donc toi, tu dis réponse Mickey A,
dinguerie.
Des eurodéputés à Disneyland, donc ouais, réponse
ça me régale
en toi. Lorraine, qu'est-ce que
tu penses? Moi, je dis B.
Toi, tu dis Munich.
C'est... Ouais, au moins. Oktoberfest. Ouais, c'est vers là-bas.
Est-ce que c'est Oktoberfest?
Même pas.
Je te dis la vérité.
C'est la fin de la bière.
Mais quand il y a des eurodéputés là-bas, c'est une dinguerie.
Ah ouais.
Safia, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, je connais la réponse.
Tu connais la réponse, d'accord. Tu connais la réponse aussi, Bella?
Possiblement, je vais partir sur la réponse A.
La réponse A, Disneyland.
Je connais la réponse, alors je... Safia, tu veux y aller en première?
La A.
La A.
Et c'est effectivement la bonne réponse. Bravo à Malek, notamment, qui lui ne connaissait pas. Effectivement, le train, il s'est trompé de chemin. Il est allé à Marne-la-Vallée, donc qui est le terminus pour Disneyland Paris.
Mais du coup, ils sont allés à Disney ou pas?
Non, ils sont partis dans l'autre sens.
Et c'est là que l'anecdote est très triste, c'est qu'ils ne sont pas descendus du train, ils sont repartis vers
C'est pas le pire qui aurait pu leur arriver. Moi, ça m'est arrivé donc, de m'arrêter pendant 5 heures en milieu de voie, sans clim, en juillet, pour aller à Strasbourg, on a adoré.
C'est vrai cette légende comme quoi entre Bruxelles et Strasbourg, il y a des mallettes.
Il y a des malles en fait. C'est des cantines, comme des cantines militaires. Et quand tu. Le vendredi, en fait, tu remplis ta malle, c'est les documents que tu vas mettre qui vont être transportés à Strasbourg. Et comme ça, t'as tes affaires, t'as tes dossiers. Et pareil, quand tu pars de Strasbourg, le jeudi, tu remplis ta malle. Et le vendredi, ça va...
Rappelle-moi, il y a combien de centaines de députés européens qui font
705.
705 malles 720. À transporter entre Bruxelles et Strasbourg.
Et oui, effectivement, ça fait...
C'est beau, l'Europe.
Ça fait pas mal.
Non, mais en même temps, c'est sûrement très utile. En 1991, il y a un pays qui a demandé officiellement à rejoindre l'Union européenne avant de se rétracter l'année suivante.
Il y en a deux même.
La question c'est... Oh, t'es chiant.
Sortez-le.
Ça va, Quentin, merde. Bah, suivez-le sur Twitch, voilà. C'est quand même assistant.
Désolé, je...
Quel crack.
Quel pays a voulu rejoindre l'UE en 1991? Réponse A, le Maroc. Réponse B, Israël. Réponse C, le Groenland. Ou réponse D, la Suisse?
C'est un move, en vrai.
Je pense que c'est un piège, non, là.
Attends, 1991.
C'est un quiz à la con, hein. Il y a un moment...
C'est un petit délire de dire je peux y aller, puis finalement non.
Il y a trois réponses auxquelles il y aura une histoire à raconter.
Ah bah wow. Tu me le raconteras.
Un peu comme à la guerre, genre j'y vais pas, je suis neutre, tout
ça. Un peu moins en boîte de nuit aussi, j'y vais pas.
Parfois on est recalé, on n'est pas recalé aussi.
Il y a eu des pays recalés à l'entrée à l'Union Européenne, c'est déjà arrivé. Allez-y les amis, si vous avez des idées de réponses, dans le chat vous pouvez jouer. Hein. Mm-hmm. Ça compte pour rien, mais vous pouvez jouer.
Moi, j'irais le Maroc. Je sais pas pourquoi.
Le Maroc.
Ouais.
Réponse A, le Maroc.
Okay. Ils se sont dit, on est juste de l'autre côté, tu vois, c'est pas grave.
Non, mais ouais, peut-être. Hein. Jamais ils vont.
Parce que la Suisse, ouais, je sais pas, je verrais pas.
Non, mais genre, non, ça paraît bizarre.
Vu leur histoire chelou, Israël, c'est un peu loin quand même.
On a Chypre.
Oui, mais Israël, l'Union Européenne est le premier partenaire commercial d'Israël.
Ouais, en plus, il y aura une cohérence économique, je suis d'accord.
Le Groenland.
Non, mais moi, je
pense que vous me dites le Groenland, c'est le plateau.
Mais non, mais la Suisse, les guys, non?
Et non, je pense que.
Bah non, mais soyons évidents, là.
Allez, maintenant, faut me donner les réponses. Malek.
Groenland, c'est. Allez.
Réponse C, le Groenland.
Moi, je dis A, le Maroc.
Réponse Lorraine, réponse A, le Maroc.
Bah, D.
Réponse D, la Suisse pour Safia.
Israël.
Israël, la réponse B pour Bella.
Et la réponse D.
Et Quentin, la réponse D, c'est la bonne réponse. Bravo, mais c'est bien la Suisse. Bravo, Safia.
Et du coup, pour compléter...
Alors, vas-y, complète, s'il te plaît,
alors,
Quentin.
Alors, je raconte les histoires. Donc, déjà, c'était deux pays. C'était la Suisse et la Norvège. La Norvège aussi a été censée rentrer dans l'Union, candidatée. Et ensuite, il y a eu un référendum, deux fois même. Et du coup, ils ont retiré leur candidature parce que le résultat était négatif. Les histoires. Le Maroc a effectivement demandé à rentrer dans l'Union européenne en 1987. Ça a beaucoup emmerdé les États membres qui ne s'attendaient pas à ça. Et du coup, ils ont dit en fait, non, parce que ce n'est pas un État européen. Ils ont changé les traités pour mettre une condition. Il faut être un État européen. Et le Groenland a été membre de l'Union européenne puisque c'est un territoire danois. Et en fait, il y a eu un référendum là-bas parce qu'ils ont, en gros, il a eu l'autonomie du Groenland et le Groenland a quitté l'Union européenne. Donc aujourd'hui, le Groenland ne fait plus partie de l'Union européenne formellement.
Ok.
Putain, c'est cool l'Europe.
Elle voulait des anecdotes, j'en ai des centaines. Ne testez pas.
Ça donne envie de voter le 9 juin, dis donc. Non, mais, et moi, je trouve ça très rigolo quand même que la Suisse demande à adhérer et l'année suivante vote contre.
Mais c'est
parce
tout à l'image de la Suisse.
Ils ont eu un référendum, en fait.
C'est tellement la Suisse. Donc voilà, c'est le système suisse. Référendum suisse, let's go.
C'est tout à son image.
Troisième question, j'ai une image à vous montrer. Vous allez me dire qui est cette personne.
Waouh.
Regardez bien cette image.
Mais Usul, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que c'est réponse A, Jean-Claude Juncker? Réponse B, un militant anglais pro-Brexit? Réponse C, Usul?
C'est vraiment la réponse C.
Mais Usul a son prime. Hein. ou réponse D, Captain Europe?
Je vois que j'ai le même humour que les auteurs.
C'est un coup de la con, ça ne changera jamais.
Ah putain.
Voilà. Juncker a son prime aussi. Hein, si,
ah, Juncker, voilà, Juncker a son grand fan.
La réponse, je crois.
Pour moi, c'est la D, je pense.
Ouais.
Les gars derrière n'ont pas l'air affolés, hein, on est d'accord.
C'est une journée normale, hein, un petit lundi midi.
Moi, je me demande si.
Assis à la place du président Juncker et derrière, c'est chill total, tout va bien.
Mais non,
bienvenue
mais
au Parlement.
J'essaye de réfléchir, même si c'est un quiz à la con. Et en fait, je me demande si ce personnage, si c'est pas Captain Europe et qu'il aurait pas émergé pendant l'actu du Brexit.
Mmh.
Et peut-être que je dis grave de la merde et que je suis foncièrement conne. C'est pas grave. Mais c'est bien de faire semblant.
La théorie est intéressante. Non, il a pas les yeux de Juncker, il a les yeux de Schulz. C'est horrible.
Tu connais toi les yeux de Juncker et les yeux de Schulz, mais moi je suis pas capable de les reconnaître comme ça les yeux. Là.
Non, mais les yeux de Schulz, si quand même.
Les yeux de Schulz et l'arrondi un peu de visage.
Ah oui, non, mais d'accord.
Un peu méchant visage.
Ok.
Président Juncker, pour ceux qui ne savent pas, ancien président de la Commission européenne. Vos réponses, chers amis, qui c'est? Réponse A, Jean-Claude Juncker. Réponse B, un militant anglais pro-Brexit. Réponse C, Usul. Réponse D, Captain Europe.
Le militant anglais.
Le militant anglais pro-Brexit, réponse B pour Malek.
Moi, je vote Usul. Non, je rigole. La D, du coup.
Captain Europe.
Je suis très tentée par Usul, mais la D.
Captain Europe également.
Même je pense qu'on devrait lui acheter.
Même réponse que Malek.
Même réponse que Malek, un militant anglais pro-Brexit, pardon. Ouais. Ok, Quentin, tu connais la réponse?
Captain Europe.
C'était effectivement la réponse D, bravo.
Donc c'est un activiste.
Encore une fois, Safia. Encore une fois, Safia.
Quand est-ce qu'il a été, il a émergé, ce personnage?
Alors, je t'explique, c'était un personnage qu'un fonctionnaire européen avait créé en 2006, mais qui avait ressurgi en 2019, au moment des dernières élections européennes. D'accord. Et il défilait au Parlement et dans les rues de Strasbourg pour lutter contre l'abstention aux élections.
Bon.
En fait, c'était tu vois, ni la première, ni la dernière.
Ouais, bah,
on l'a eu au téléphone pour préparer cette émission. Il cherche un successeur.
c'est un combat chaque fois, cherche
son actu, c'est son actu. Voilà, comme quoi, il y en a qui tentent des trucs pour intéresser les gens à l'Europe. Voilà,
non, mais le pire, c'est qu'à la base, en fait, le gars qui a créé ça en 2006, il s'était pointé déguisé comme ça, genre un événement, mais en mode complètement random, pour se déguiser, pour se marrer. Et les gens adoraient. Il fait, bon, en fait, je vais peut-être continuer à le faire. Et des années plus tard, des potes à lui ne le reconnaissent toujours pas.
D'accord.
Oh, wow.
Quatrième et dernière question de ce quiz à la con. Quelle a été la mascotte du parti pirate pendant les élections européennes de 2019? Est-ce que c'était réponse A, la patate pirate? Réponse B, le requin pirate? Réponse C, la tomate pirate? Ou réponse D, la vigie pirate?
Alors je m'en veux, tu sais, parce qu'il m'avait
invité. Encourager les auteurs du coup, c'est la con, qui en ont besoin.
Il m'avait invité à un event pour les européennes de 2019 et du coup, j'en ai aucun souvenir, désolé.
Mais parce que tu étais pas allé.
Non, je
suis pas allé. C'est pour ça que tu te souviens pas.
Moi, j'avoue, je ne connais pas la réponse. Donc,
je
suis pareil que vous, là.
Attention, la Vigipirate serait drôle, quand même.
Alors, moi, je fonctionne beaucoup avec la mémoire visuelle et je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai l'impression d'avoir vu un requin.
Un requin, pareil, ouais.
Peut-être requins, que je me cours totalement.
C'est
une hallucination.
Je me demande si ça peut être aussi une influence de la série Parlement, parce qu'il y a tout un truc sur les requins dans alors, Parlement. Je sais pas si le requin pirate, ça me dessine quelque chose.
Ou alors il y a Bob l'éponge, les pirates et les requins. Ouais, ouais.
Les pirates et les requins.
C'est, la, wow. c'est parti pirate français.
C'est de la culture.
Oui, là on est sur l'association d'idées.
Oui, c'est le parti pirate français.
Non, mais genre le requin c'est dans la mer, donc les pirates.
Quoi?
Non.
Bob l'éponge, en tout cas, on a de belles refs européennes. Hein, c'est...
Ah, c'est important l'Europe.
Ouais, de la grosse ref.
Tac. Bon. Allez, la patate pirate, le requin pirate, la tomate pirate ou la vigie pirate. Quelles sont vos réponses, chers amis, Malek?
Réponse B, le requin pirate.
Le requin pirate pour Malek. Lorraine.
Ouais, B aussi. Parce que
le requin pirate également. Ok.
Ça va être la B pour ma part.
Réponse B, le requin pirate également pour Safia. Donc on a un trio de requins pirates.
Réponse
là,
A pour moi.
La patate pirate.
Oh,
pour Bella.
Si c'est ça, ce serait super drôle.
Moi je vais sur la tomate.
Et la tomate pirate, réponse wow. C pour Quentin. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Bella qui a la bonne réponse.
C'est quoi, la patate?
J'hésitais en plus.
Bravo Bella.
Attendez, on a une image.
Mais non. J'hésitais en
plus. Vous avez l'image, le parti pirate en 2019. Ils n'étaient pas à leur prime en termes non, mais même nous pour... de graphisme.
Même nous, pour ouais. les élections à Nanterre, on a fait mieux pour les élections étudiantes. Non mais les gars.
Je veux juste discuter avec leur service comme là. Il y a un... c'est passé.
Faut s'asseoir, faut parler. Ça va, tu veux qu'on parle?
Non mais c'est juste un peu trop avant-gardiste pour
le
nous.
Le parti pirate est un parti qui date de 2006. Il a présenté une liste aux européennes avec comme tête de liste une avocate et élue de la ville de Strasbourg.
Tu sais que...
Caroline Zorn.
Jean, j'ai vu quelque chose sur toi en parlant du parti pirate.
Sur moi?
C'était, oui, tout à fait.
Alors, on a reçu le parti pirate sur Backseat.
Non, c'était une auditrice de Backseat qui avait laissé un message dans les commentaires en te remerciant, en disant merci Jean, grâce à toi, je me suis politisée. Et en fait, elle a fini à ces élections-là à se présenter sur la liste du parti pirate.
Oui, je l'ai
pirate.
Vu ce commentaire wow sur YouTube. Oui, c'est un commentaire sur YouTube. Bah, ça fait plaisir, hein, les viewers ouais. de Backseat qui deviennent politiques, ça fait toujours très plaisir. Donc là, oui, j'ai vu ce commentaire d'une candidate du parti pirate qui s'est intéressée à la politique grâce à Backseat. Et ça, c'est cool. Chers amis, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour remercier Quentin et Bella qui sont venus sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup.